Bonsoir à toutes et à tous. C'est vendredi, c'est le Club des idées du grain. Ce soir, l'Europe a-t-elle besoin d'Emmanuel Macron ? Errare humanum est, Captain Europe, le personnage burlesque et masqué qui déambule dans les couloirs du Parlement européen, n'en est pas sa mascotte, contrairement à ce que je laissais entendre la semaine dernière. Une confusion d'autant plus inexcusable que le vrai Captain Europe a tombé le masque cette semaine en s'adressant à visage découvert à l'ensemble des citoyens européens. Emmanuel Macron leur a écrit une lettre dans laquelle il sonne le tocsin. L'Europe est en danger, il faut la protéger. Pour l'occasion, Emmanuel Macron invente un nouveau triptyque, liberté, protection, progrès, qu'il voit comme les piliers d'une renaissance européenne, et d'y associer une série de propositions qui vont de la remise à plat de l'espace Schengen à la mise en place d'un bouclier social européen, en passant par la création d'une agence de protection des démocraties. La publication de ce texte dans la presse de l'ensemble des pays de l'Union a au moins eu une vertu en France, celle de faire sortir la campagne des élections européennes de sa torpeur. Mais au-delà de l'interpellation, que vaut l'initiative et que valent les propositions du président français ? L'Europe a-t-elle besoin d'Emmanuel Macron ? On en discute ce soir en compagnie de deux des membres de notre club. Coralie Delhomme, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes essayiste. Vous allez bientôt publier en compagnie de David Kayla 10 questions plus une sur l'Union européenne. Ça paraîtra d'ici la fin du mois aux éditions Michalon pour discuter avec vous. Laurent Bigorgne, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de l'Institut Montaigne. Et notre invité ce soir, eh bien, c'est lui aussi un directeur. Sébastien Maillard, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de l'Institut Jacques Delors. Qu'avons-nous fait de l'Europe ? Ça, c'est le titre d'un de vos ouvrages que vous aviez publié aux éditions Salvator en 2013. Alors avant de parler du fond de la lettre d'Emmanuel Macron aux citoyens européens, je voudrais d'abord avoir votre avis sur ce que cela a provoqué au niveau de la campagne des européennes, si ce n'est dans l'ensemble de l'Europe, en tout cas en France. Est-ce qu'on peut dire qu'avec cette lettre, la campagne des élections européennes vient enfin de commencer, Sébastien Maillard ?
En France, oui. En France, elle a commencé. D'ailleurs, cette émission, quelque part, on est la preuve. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres émissions en ce moment ailleurs. Je ne sais pas si en Slovénie ou en Lettonie, où on a une émission comme ça, où on parle de la lettre d'Emmanuel Macron en même temps. Donc, je pense que ça a eu un effet en France. Dans le reste du continent, on n'a pas vu beaucoup de réactions, ou du moins des réactions polies et disparates, mais pas d'effet déclencheur. C'était quand même très audacieux de s'adresser à l'ensemble des citoyens d'Europe de cette manière. Il faut vraiment être un chef de l'État français pour oser s'adresser de cette manière, puisque je crois que, de mémoire, aucun de ses homologues ne l'a jamais fait, ni le président de la Commission, ni non plus le président du Conseil européen. Donc, c'est très français comme démarche.
Est-ce que vous diriez qu'il faut vraiment être un journaliste français pour poser ce genre de questions ? En tout cas, supposer que c'est par cette lettre que la campagne des européennes a pu démarrer et en France et dans les autres pays de l'Union ?
En tous les cas, ça n'a pas eu l'effet dans le reste de l'Europe. Mais imaginons si nous avions eu l'inverse, la chancelière Merkel qui nous adresse à nous et à toute l'Europe. Peut-être qu'on se serait dit, mais alors pour qui elle se prend ou qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas quel autre chef d'État ou chef de gouvernement pourrait oser faire ça.
Bon, alors cela dit, ce n'est pas la première émission de la saison qu'on consacre à ces élections européennes. C'était déjà le cas la semaine dernière avec un club de la presse européenne. Mais c'est vrai qu'on voit bien à quel point cette lettre a provoqué pas mal de réactions au niveau politique. Coralie Delhomme, en tout cas, est-ce qu'on peut dire que cette fois, la campagne des européennes est lancée ?
Oui, elle est lancée, mais Emmanuel Macron l'a commencé un petit peu en amont, puisque quelque part, le grand débat, c'est la campagne qu'il se fait à lui-même par l'intermédiaire de ce grand débat. Mais sinon, pour ce qui est de prendre cette initiative, c'est un peu étrange, parce qu'on s'attendrait plutôt à ce qu'un chef d'État parle avec les autres chefs d'État et de gouvernement. Là, il lance une campagne électorale en tant que président de la République, comme s'il était un chef de majorité. C'est un peu étonnant, en fait.
Mais parce qu'il faut quand même préciser qu'il ne sera pas candidat aux élections européennes.
Bien sûr,
ce serait
non.
Quand même assez surprenant. Hein.
Mais il
n'est-ce pas, Laurent Bigorgne ?
Il faudrait pour ça qu'il démissionne, donc ce serait effectivement un peu surprenant. Non, je crois que c'est un moment important au sens où... moi, je me réjouis qu'il y ait un espace public, un espace politique européen qui se constitue. C'est-à-dire que c'est très bien de discuter de l'Europe dans chacun des pays. C'est aussi bien d'essayer de porter un certain nombre de thèmes... à l'échelle européenne, et je vais pas reprocher au président d'être un homme politique et de faire de la politique. C'est assez normal, hein. Et il fait de la politique, et j'espère que d'autres, y compris d'ailleurs à l'est de l'Union européenne, qui sont radicalement en désaccord avec le président, feront de même. Je trouve que cette européanisation du débat, elle est tout à fait saine, elle est sereine, pour l'instant, et elle fait du bien au débat.
Mais il a quand même une manière de faire de la politique à travers cette lettre qui est assez singulière, Laurent Bigorgne, c'est-à-dire il s'adresse seul, en tant que président français, à l'ensemble des citoyens européens. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus pertinent d'essayer de trouver d'autres co-signataires, disons, peut-être pour que sa lettre ait davantage de poids et d'impact?
On peut estimer que sans doute Ngaju, d'autres co-signateurs, d'autres chefs d'État, d'autres premiers ministres auraient donné davantage de poids. Mais ça, c'est à Macron qu'il faut poser la question lui-même. Moi, j'aurais aucun problème. Alors, ça pourrait peut-être poser des problèmes à des Français, comme la lettre de Macron a pu poser des problèmes à d'autres nationaux en Europe. J'aurais aucun problème à ce que M. Salvini s'adresse à moi ou à ce que Mme Merkel s'adresse à moi, vu que leurs décisions ont un impact sur ma vie au quotidien.
Coralie Delhomme et ensuite Sébastien Maya.
Oui, je pense qu'il y a eu aussi un petit peu d'indifférence. Dans un certain nombre de pays, ça a été accueilli avec pas mal d'indifférence. Les pays d'Europe de l'Est, un certain nombre d'autres pays. Moi, je suis pas sûre que ça a eu l'impact qu'il espérait, d'autant plus que...
Y compris en France, d'ailleurs. Enfin, même si, oui. Alors, il y a la moitié, je crois, des Français, d'après un sondage au Doxa, qui en ont entendu parler, et 11% des personnes interrogées qui ont lu la lettre. Cela dit, 11%, c'est peut-être pas si mal que ça,
c'est
d'ailleurs.
C'est beaucoup, oui.
Oui, mais ce qui est important dans le cadre là, c'est de voir à l'intérieur de cette lettre ce qu'il y a. Et si ça a eu relativement peu d'impact, c'est peut-être aussi parce que il énonce un certain nombre de choses qu'il faudrait faire. Or, les gens savent, pour un bon nombre d'entre eux, qu'il a déjà émis des propositions pendant sa campagne présidentielle, au début de son mandat, et que, pour une large part, il a déjà échoué en Europe.
On va aller dans un instant, justement, sur ces propositions, Sébastien Maillard, mais en tout cas sur la méthode utilisée, sur le mode opératoire.
Oui, il faudrait rebondir aussi sur le fait que écrire tout seul, c'est quand même un problème en Europe où on ne construit pas l'Europe tout seul. Vous disiez, dans le titre de l'émission, c'était « Est-ce que l'Europe a besoin d'Emmanuel Macron ?» Je dirais qu'elle a besoin d'Emmanuel Macron au pluriel. C'est-à-dire que Jacques Delors n'a jamais fait les choses tout seul. Il l'a fait avec des alliés, il l'a fait avec Helmut Kohl, François Mitterrand, Felipe González, même Margaret Thatcher. Donc l'Europe, quand elle a été faite toute seule, c'était plutôt dans ses heures les plus sombres.
Oui, mais soyons un peu cocardiers. Est-ce qu'il y a d'autres Emmanuel Macron aujourd'hui en Europe? C'est-à-dire qu'est-ce que cette initiative solitaire, elle n'est pas liée aussi, peut-être pas seulement à l'idée de se dire, bah voilà, je vais aller seul essayer de convaincre les citoyens européens, mais est-ce qu'elle n'illustre pas aussi un manque de grandes personnalités, de grandes voix sur les questions européennes aujourd'hui, Sébastien Maillard?
Il y a clairement une crise de leadership aujourd'hui en Europe, effectivement, on le voit dans les différents États, en Allemagne en particulier en ce moment, mais dans d'autres, le Brexit, on en parlait, est aux abonnés absents par définition, donc oui, l'Espagne est en préparation des élections, la Belgique est en affaire courante, donc on a beaucoup de coalitions et beaucoup de gouvernements minoritaires, des coalitions très fragiles, donc effectivement sa grande difficulté, c'est de manquer d'alliés. Et je pense aussi qu'on peut avoir bien sûr une campagne plus européenne et européaniser le débat, avoir un espace public européen, mais c'est pas forcément dans les mœurs politiques de beaucoup de pays d'avoir un dialogue direct entre le chef de l'État et le peuple. Ça, c'est très gaulliste.
Est-ce que vous partagez, Laurent Bégorny et Coralie Delhomme, cette idée qu'il y a une crise du leadership en Europe et que c'est aussi ce qui explique peut-être que les initiatives d'Emmanuel Macron soient à ce point visibles? En tout cas, qu'on en parle autant, même si vous disiez, bon, ça n'a pas forcément eu l'impact espéré dans les autres pays européens. C'est extrêmement difficile à mesurer, cela dit.
Il y a une double crise. Il faut être objectif quand on parle de l'Union européenne. Il y a une crise à la fois du leadership au sens où on sent bien à la fois que ceux qui dirigent aujourd'hui la Commission ont un mal fou à obtenir le rayonnement qu'ils souhaiteraient, qu'ils devraient, compte tenu des politiques qu'ils ont entre les mains. Et il y a une crise de l'Union européenne elle-même, c'est-à-dire du projet européen. Et d'ailleurs, les deux vont assez bien ensemble. Et de ce point de vue-là, je trouve intéressant à la fois qu'il y ait cet effort politique. Vous allez dire que c'est très gaullien, c'est très macroniste, c'est très jupitérien, que sais-je, qu'il s'adresse aux uns aux autres. Encore une fois,
c'est très napoléonien, on pourrait dire.
Hein, mais même si vous voulez, je suis pas sûr exactement que j'achète, mais si vous souhaitez, je trouve bien qu'un chef d'État aujourd'hui cherche à susciter le débat. Et d'ailleurs, s'il avait co-signé avec Merkel, tout le monde lui aurait dit « mais c'est un condominium franco-allemand qui va décider pour tous les autres ». Donc on voit bien que de toute façon, aucune des configurations n'est nécessairement satisfaisante. Il pose des thèmes, il pose des objets. Alors, est-ce qu'on peut dire comme Coralie que c'est un échec? Je pense qu'à l'échec, de 62 ans d'histoire et d'un continent de 400 millions d'habitants, dire après deux jours que c'est un échec ou même après deux ans d'une politique qui est en échec, c'est tout petit peu rapide. Mais je trouve très intéressant que des objets soient posés parce qu'ils vont indéniablement structuré la campagne.
Coralie Delhomme.
Et c'était son objectif.
Oui, je dis que c'est un échec parce que l'Union européenne en est arrivée à un point où elle est elle-même un échec. Et c'est pas après deux jours que je pose le diagnostic. C'est après, ça fait depuis le milieu des années 80 qu'on mène à peu près les mêmes politiques, en tout cas économiques, en France. Donc c'est après tout ce laps de temps que je dis que c'est un échec. Et c'est un échec pour Macron en tant que tel aussi, parce qu'au début de son mandat, il nous a fait croire qu'il allait obtenir un tas de choses. Il nous a fait croire notamment qu'il allait arracher à l'Allemagne le consentement pour mettre en place un budget de la zone euro sans lequel la monnaie unique n'est pas viable. Elle finira tôt ou tard par exploser si, à côté de cette monnaie fédérale, on n'a pas un budget fédéral. Or, l'Allemagne lui a dit non. Et ça, c'est très important de l'avoir en mémoire parce que cet échec-là met en gage tout l'avenir de la zone euro et même de l'Union européenne.
Par rapport à l'Allemagne, justement, ce qui est intéressant dans cette lettre, c'est qu'il ne met pas l'accent sur le couple franco-allemand, ce que font traditionnellement les chefs de l'État français. Il paraît même, alors d'après la correspondante à Paris du Frankfurter Allgemeine Zeitung, que cette lettre n'a pas été relue avant par Angela Merkel, alors que son discours de la Sorbonne l'avait été. Est-ce que ça signifie quelque chose sur l'état du couple franco-allemand, Sébastien Maillard, ou en tout cas sur le fait que Emmanuel Macron se dit peut-être qu'il ne faut pas le mettre trop en avant parce que c'est quelque chose qui peut déplaire au niveau de l'Union européenne?
Les deux. D'une part, effectivement, lorsqu'on s'adresse à toute l'Europe, il ne faut pas s'adresser effectivement qu'en franco-allemand parce que sinon vous héritez les Italiens, vous héritez les pays de l'Est et d'autres. Donc ça, c'est effectivement, si on signe à plusieurs, il faut vraiment être plus nombreux et plus que deux. D'autre part, c'est un couple effectivement qui est en panne et c'est vraiment un grand changement par rapport au discours de la Sorbonne puisqu'on compare beaucoup ce texte à celui de la Sorbonne du 26 septembre 2017 qui était vraiment clairement choisi par rapport aux élections allemandes et qui s'adressait directement, qui interpellait l'Allemagne. Là, on voit que non seulement il ne s'adresse pas particulièrement à ce partenaire historique, mais ça va vraiment à toute l'Europe, y compris beaucoup à l'Est. Ce qui m'a frappé, c'est lorsqu'il dit que l'Europe entière est une avant-garde, alors que souvent on parle de faire un noyau dur, d'avoir quelques pays à part. Là, c'est toute l'Europe à laquelle elle s'adresse, et vraiment y compris à l'Est. Et il y a aussi un vrai, je dirais, pied de nez aux Brexiteurs en disant que finalement, la meilleure façon de take back control, de reprendre le contrôle, c'est par l'Europe.
Est-ce qu'on ne peut pas le créditer quand même au moins de ça, Coralie Delhomme, Emmanuel Macron, c'est-à-dire de s'adresser à l'ensemble des citoyens européens sans être dans cette idée d'une Europe à plusieurs vitesses qui avait un peu le vent en poupe ces dernières années?
Oui, je pense qu'il n'est pas impossible qu'il ait tiré la leçon d'un excès de franco-allemand ces derniers temps, notamment après l'épisode du traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle qui allait assez loin dans la volonté de coopération dans les domaines de la diplomatie et de la défense, et un traité qui a été beaucoup critiqué parce qu'on en a dit, à juste raison, que la France y faisait beaucoup de concessions et que l'Allemagne en échange ne donnait rien, d'autant que c'était à peu près au même moment où l'Allemagne s'était opposée à la taxe GAFA et, encore une fois, à ce fameux budget de la zone euro. Donc c'était le traité était beaucoup critiqué pour ça. On avait l'impression que l'Allemagne était un peu en mode « on prend ce que vous avez et on ne vous donne rien ».
Laurent Bégarni.
Que les relations soient difficiles avec l'Allemagne, le nier serait mentir. Elles sont compliquées, elles sont dialectiques, y compris parce que les Allemands ont leur propre turpitude, nous avons les nôtres. Ce que je trouve intéressant dans la période de redéfinition que nous vivons, c'est qu'il faut que maintenant la France se réinvente dans l'Union européenne. Et d'une certaine façon, la question qui est posée à Macron, la vraie question qu'il faut lui poser, c'est le choix effectivement d'une missive solitaire, et donc d'une démarche solitaire, il sait très bien, parce que je soupçonne d'être intelligent, que ça n'est pas possible, ou la capacité demain à retrouver les chemins pour parler à l'Allemagne, mais aussi à quantité d'autres pays. Et ce que je trouve intéressant du point de vue de la méthode depuis le début de son mandat, c'est cette volonté qu'il a eue de visiter le maximum de pays européens. Ce que n'ont fait aucun des présidents qui l'ont précédé, dans les dernières décennies. Et de ce point de vue-là, la capacité du président à reparler au Benelux, la capacité à s'intéresser aux États d'Europe de l'Est, y compris dans des positions un peu adverses, la capacité à s'intéresser à l'Europe du Nord, est quelque chose que je trouve très intéressant, qu'il faut creuser, indéniablement.
Alors venons-en au fond, à présent, de cette lettre d'Emmanuel Macron aux citoyens européens, avec notamment le vocabulaire qui est utilisé, qui est intéressant d'un certain point de vue, puisqu'il y a notamment question de civilisation européenne, d'identité, de protection des frontières. Est-ce que ça permettrait de qualifier le projet européen d'Emmanuel Macron, et de quelle manière? Est-ce qu'on pourrait parler d'un projet souverainiste européen, voire aller jusqu'au terme de projet identitaire, Sébastien Maillard?
Vous avez tout à fait raison de relever ces mots. Civilisation, je crois que ça arrive, le mot est plusieurs fois employé. Je pense que ça parle beaucoup aussi aux pays d'Europe de l'Est, notamment. Et ça rejoint, là, pour le coup, ça fait écho à d'autres discours qu'il a pu tenir avec sa chapelle ou notamment aussi à Athènes, où il cherche à créer un nouveau narratif européen qui soit autour du sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que l'Europe, c'est nous, Bruxelles, c'est nous tous, et donc de créer. Là, par contre, le mot souveraineté apparaît très peu dans ce discours, dans cette adresse-là, mais c'est vraiment pour signifier que l'Europe est bien plus que ses institutions, elle est un projet de civilisation.
Laurent Bégogne.
Oui, bah, il y a un champ lexical qui étonnera peu. Alors, il est très confortable pour les Français au sens où l'idée de protection va leur parler énormément, que l'idée de progrès, me semble-t-il, est une idée aussi qui est intéressante, surtout qu'il souligne l'aspect social de ce progrès. Les vrais ultra-libéraux, libéraux regretteront l'absence de projection économique peut-être à cet égard. Mais je crois que l'intention du président qui est d'essayer de retrouver ou de, j'allais dire, faire se concerter ou converger les Européens sur une base minimale me paraît pour le coup assez cohérente. Et le triangle esquissé, liberté, protection, progrès, les uns et les autres pourront, j'allais dire, se situer en dehors, mais il est relativement indiscutable eu égard à ce qu'est l'Europe et eu égard à ce que sont ses valeurs.
Et parler de souverainisme européen.
Alors, le souverainisme européen, on n'y est pas. Il y avait un sujet avant le début de notre émission sur le spatial. C'est un sujet sur lequel aujourd'hui on est extraordinairement à la traîne, alors même qu'on a eu l'habitude d'être assez leader sur le spatial. Donc, il y a, je crois, aussi un wake-up call en mauvais français, donc une volonté de réveil sur un certain nombre d'enjeux qui sont en train de nous dépasser. Alors, il ne parle pas du spatial dans la lettre, mais il parle d'un certain nombre de dangers ou d'États qui font pression sur l'Europe en dehors de ses frontières. De plus en plus, me semble-t-il, l'affirmation d'une souveraineté européenne. C'est vrai aussi quand il pointe du doigt un certain nombre de pratiques qui concernent des entreprises qui ne seraient pas alignées avec les objectifs européens. Et me semble-t-il, il y a une volonté de progresser, là où la Commission, on sait bien, est un peu réticente à avancer sur ces sujets.
Coralie Delhomme.
Oui, cette histoire de souveraineté européenne est un peu bizarre. J'ai l'impression qu'on est à cheval entre deux choses. On est à cheval entre la volonté de conserver l'Europe supranationale existante et comme un espèce de regret de ne pas avoir mis davantage l'accent sur l'intergouvernemental et de ne pas avoir fait en intergouvernemental davantage de projets de type Airbus, par exemple, qui permettent d'affirmer non pas une souveraineté européenne, puisque la souveraineté, c'est celle d'un peuple, et un peuple européen, il n'y en a pas. Le peuple, à l'échelle de la nation, mais une indépendance européenne. Voilà. Et c'est ce que voulaient à l'époque, dans les années 60, les gaullistes. Ils voulaient une Europe intergouvernementale, indépendante, à la fois des États-Unis et de l'Est. Mais l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui est davantage une Europe supranationale, et j'ai l'impression qu'il veut le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire conserver l'acquis supranational, tout en remettant l'accent sur l'intergouvernemental, sachant que les deux sont relativement antinomiques.
Vous évoquez les gaullistes, il y a une partie de la famille qui vient justement du gaullisme, qui adhère totalement justement à ce projet d'Emmanuel Macron. Quand on voit que, alors c'est peut-être pas le plus gaulliste des gaullistes, Jean-Pierre Raffarin, mais qui rejoint la campagne d'Emmanuel Macron, mais Alain Juppé. Voilà, Jean-François Copé, alors qui a dit que, en gros, cette lettre, il considérait que c'était sa famille politique qui aurait dû la signer. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à quoi ? Alors, une forme de recomposition autour de ces questions européennes où on met un peu de souverainisme avec les contradictions qu'évoquait Coralie Delhomme, Sébastien Maillard ?
On retrouve effectivement dans les propositions des propositions de nature intergouvernementale, même si l'expression n'est pas là, mais lorsqu'il parle d'un traité de défense, c'est un traité entre États et ça peut être hors de l'Union européenne. Lorsqu'il évoque d'autres solutions, d'ailleurs des institutions européennes, la Commission ou le Parlement européen ne sont jamais évoquées, la Commission une fois, mais le Parlement européen, alors que ça s'adresse pourtant pour les élections européennes, n'est jamais une seule fois mentionné. Et d'ailleurs beaucoup des propositions qu'il fait ne sont pas du pouvoir des députés européens pour être menées.
Il parle aussi de l'OTAN d'ailleurs, hein, c'est-à-dire sur la politique de défense, l'OTAN, ça n'est pas constitutif de l'Union européenne.
Non, mais là-dessus, il dit en lien avec l'OTAN. Donc on sent que c'est un lien qui peut être assez distant. On aurait pu dire en complément ou mais là, il prend aussi ses distances vis-à-vis de l'OTAN pour que ce traité de défense, qui reste encore à définir, se fasse indépendamment de cette structure atlantiste.
Prise de distance, c'est peut-être justement aussi un des termes qui convient pour essayer de comprendre ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron, c'est-à-dire ne pas trop aller vers les sujets qui sont les plus clivants aujourd'hui, Laurent Bigorne.
Ouais. franchement, quand il affirme effectivement que la politique de défense européenne est à penser non pas sous la coupe de l'OTAN ou sous parapluie de l'OTAN, mais en lien avec l'OTAN, c'est un sujet extraordinairement clivant avec les Allemands. Et je pense qu'il a raison de le poser et que c'est exactement comme ça que les choses se posent aujourd'hui. Et j'ai tendance à pas trouver la même dialectique que Coralie dans la lettre du président. À la fois, il y a toujours eu des politiques trans-européennes ou pan-européennes ou à l'échelle de l'Union et on a généralisé les coopérations, ce qu'on appelle les coopérations renforcées. Donc il n'y a pas de contradiction, il y a déjà les deux objets à disposition, de la même manière que je disais tout à l'heure qu'il était quand même difficile d'affirmer l'échec soit programmé, soit d'ores et déjà avéré de l'Union européenne, et je ne partage pas du tout le pessimisme sur la zone euro, qui plutôt dans la crise de 2008 et dans les crises des dettes souveraines, a montré sa résilience et sa capacité, la zone euro, à évoluer. Et d'ailleurs, vous voyez bien, au moment où paraît cette lettre, la Banque Centrale Européenne vient nous dire qu'elle allait poursuivre ses politiques accommodantes. Hein, vis-à-vis notamment.
Elle va encore donner de l'argent aux banques, mais ça, ça marche pas.
Oui, mais les banques, c'est les clients. Hein, je veux dire, cette dichotomie entre banque et client, vous pouvez la jouer autant que vous voulez pour des raisons idéologiques, mais elle n'existe pas.
On va injecter à nouveau dans le système financier de l'argent, alors que si les banques prêtent pas à l'économie réelle, c'est parce que les entreprises veulent pas investir parce que la conjoncture est vraiment
pas bonne. Les entreprises investissent. Je suis désolé, je suis complètement en désaccord avec vous. Les entreprises investissent, c'est les banques prêtent.
Non, les entreprises n'investissent pas assez parce que tout simplement, il y a pas suffisamment de demande.
Énormément.
Sébastien Maillard.
Juste pour en revenir à l'adresse, il n'y a pas l'expression zone euro. Il dit l'euro est la monnaie de toute l'Union. Il le dit comme ça. Ça veut dire qu'il ne veut pas distinguer une zone euro qui serait à part. Et là aussi, c'est un geste vis-à-vis des pays d'Europe centrale ou de l'Est qui ne comptent pas adopter l'euro de sitôt pour les mettre dans la famille. Mais c'est important de voir aussi que le mot Union européenne ne figure même pas dans cette adresse, puisqu'il s'adresse aux citoyens d'Europe. Donc ça compte aussi pour le Royaume-Uni. Il y a une vraie main tendue aussi au Royaume-Uni pour faire partie de cette Europe dans une approche, encore une fois, plutôt intergouvernementale que communautaire.
Il y a quelques propositions qui sont, me semble-t-il, assez originales. Alors, pas forcément le fait de remettre à plat l'espace Schengen, parce que ça fait déjà quelques années qu'on en entend parler. Il évoque la Banque européenne du climat, mais ça, c'est une idée qu'il reprend de Pierre Larouturou et Jean Jouzel et Anne Hessel. Mais il y a cette agence européenne de protection des démocraties. Alors, est-ce que vous êtes capable, Sébastien Maillard, de nous expliquer de quoi il s'agit ?
Moi, ça m'a fait sursauter quand j'ai lu ça, parce que je trouve déjà que dans le discours de la Sorbonne, il y avait beaucoup de réponses institutionnelles. Je crois qu'il y avait environ 73 propositions et beaucoup de créations d'agences, de corps, d'autorités. Ça, c'est très français comme approche. Il y a un problème, on crée une commission, une institution, on veut créer un nouveau conseil. Et là, effectivement, cette agence européenne de protection de la démocratie, bon, il existe une agence européenne des droits fondamentaux à Vienne. Peut-être qu'on pourrait la renforcer, peut-être qu'on pourrait l'activer. Il y a déjà des tas d'agences européennes qui existent sous l'égide de l'Union européenne. Je ne vois pas pourquoi il faut créer une énième agence. Et dans l'ensemble, il parle aussi de créer un conseil de sécurité intérieure. Il y avait pas plus tard qu'hier à Bruxelles des réunions des ministres des Affaires intérieures réunis. On a déjà beaucoup d'institutions. Je ne sais pas pourquoi ils veulent en créer autant de nouvelles.
Sur cette agence européenne de protection des démocraties, Coralie Delhomme.
Oui, je rejoins un peu ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire c'est très français. Ça tient au rôle que l'État a toujours joué dans l'imaginaire français. On a un peu l'impression, quand il propose ça, c'est comme si il croyait que tout a une réponse administrative et strictement administrative.
Il le propose en réaction aux tentatives de déstabilisation qui viennent de l'extérieur. Alors on pense évidemment
sur le diagnostic, c'est juste.
Mais pourquoi, oui, Laurent Bigorne. Pour le coup, Coralie a vraiment raison, c'est-à-dire que, et Sébastien aussi, c'est là où, à mon avis, la démarche est la plus française, au sens où la réponse est toujours institutionnelle ou toujours par la création de nouvelles institutions. Et d'ailleurs, c'est une des critiques qu'a reçu ce texte à Bruxelles, parce qu'un certain nombre, soit de think tanks, soit de médias, ont réagi. Et évidemment, une de leurs attaques a été sur ce goût qu'ont les Français pour le state building ou la capacité qu'on a à construire des institutions. Ce que j'aimerais dire, c'est que ce texte, d'une certaine façon, il reflète en creux de quelque chose. On a énormément perdu d'influence intellectuelle, nous, Français, en Europe. On a perdu une capacité à créer des coalitions. Et on a, il faut aussi se le dire très franchement, mal travaillé au Parlement européen. On a quelques parlementaires qui ont remarquablement travaillé, mais globalement, on a, en fonction des grands partis de gouvernement ou des partis extrémistes, envoyé des parlementaires qui ne se sont pas investis, qui n'ont pas fait leur travail de parlementaire.
Et aujourd'hui, 25 députés Front National dont on peut vouloir connaître le bilan.
Exactement, ce serait formidable de savoir ce qu'ils ont fait de façon vraiment contributive. Et donc, on a aujourd'hui un immense manque et qu'on entend, nous, Français, combler par de la création institutionnelle. Et c'est là que ça ne va pas. C'est là que, véritablement, si la France entend, comme les Allemands, j'entends les critiques de Draghi, avoir un soft power, il faut qu'elle se soucie de le construire, qu'elle soit constante, qu'elle soit persistante et qu'elle travaille.
Mais est-ce que, de ce point de vue, les projets qu'énonce Emmanuel Macron, notamment dans cette lettre, Laurent Bigorne, ça peut permettre justement à la fois de structurer peut-être une, ce qui serait une future majorité au Parlement européen, et de structurer aussi le débat de ces élections européennes, c'est-à-dire permettre de se positionner, soit on adhère plutôt à ce qui est dit, soit on le rejette. Est-ce que ça serait une forme de proposition d'alternative dans le cadre de ce débat ?
Je pense que rien n'est gratuit dans cette lettre. Le titre de l'émission, c'est « Est-ce que l'Europe a besoin de Macron ?» Je pense que Macron a besoin de l'Europe, au sens où il va évidemment chercher à travers cette lettre à susciter des coalitions autour de son projet, mais aussi des oppositions, parce qu'il en a besoin pour affirmer. Donc c'est comme ça que le débat devrait se structurer. Est-ce qu'il a jeté les bases de la refondation européenne comme il le prétend ? On est très loin de ce stade encore, me semble-t-il.
Coralie Delhomme ?
Oui, je voudrais juste dire que si la France n'a pas d'influence au Parlement européen, c'est pas parce que les députés travaillent pas. Enfin, je sais pas ce qu'ils font, mais c'est pas la raison.
Que tous les députés travaillent pas.
La raison, c'est parce que le Parlement européen est hyper dominé par l'Allemagne et que, alors déjà, le secrétaire général du Parlement, c'est-à-dire le patron de l'administration du Parlement européen, est allemand. Mais concernant les groupes politiques, vous en avez 4 sur 8 qui sont présidés ou co-présidés par des Allemands, dont les deux plus importants, c'est-à-dire les sociaux-démocrates et le PPE. Donc c'est une entité qui est très très dominée par l'Allemagne, et comme beaucoup d'autres institutions européennes, et ça c'est pas lié au fait que l'Allemagne travaille mieux ou que la France travaille moins bien, mais simplement parce que les structures de l'Union européenne, du marché unique et l'existence de l'euro ont considérablement renforcé l'économie allemande, de manière un peu artificielle d'ailleurs, et que ce poids économique se traduit maintenant en poids politique. C'est pour ça, c'est la raison. C'est que c'est structurel en fait. Le marché unique, l'euro, le caractère supranational qui rappelle la tradition très décentralisée, la tradition politique allemande, ont favorisé le positionnement, le leadership allemand par rapport à la France.
Mais est-ce qu'on doit comprendre du coup dans ce que vous dites, Coralie Delhomme, que les prochaines élections européennes n'ont finalement que très peu d'enjeux dans la mesure où il y a des équilibres structurels qui sont en faveur de l'Allemagne et que, quels que soient les résultats, finalement, ce sera toujours l'Allemagne derrière qui sera gagnante.
C'est ce que je voulais dire, mais ceci dit, il faut quand même souligner que l'Allemagne a actuellement beaucoup elle a du mal à se positionner. Enfin, elle est en pleine transition parce que les modalités de son adaptation à la mondialisation sont en train d'être mises en question, parce que c'est un modèle exportateur et que la croissance mondiale ralentit, parce que sa relation avec les États-Unis ne va plus si bien que ça et qu'elle craint pour sa sécurité, qui est entièrement garantie par le parapluie américain, etc. Donc l'Allemagne est un pays qui se cherche un peu en ce moment.
Sébastien Maillard ?
On verra d'ailleurs après les élections européennes ce qui se passe en Allemagne, ce que fera Angela Merkel, ce que fera cette coalition qui quand même est encore très, très fragile et plutôt paralysée de l'intérieur. C'est un pays qui a été échaudé par la crise de l'euro, par la crise des migrants, et qui aujourd'hui effectivement manifeste pas un grand appétit d'Europe. Donc c'est un pays qui est pour cela assez fragile. Mais je voudrais revenir un instant sur votre question sur la démocratie, parce qu'il y a l'agence européenne, on a répondu sur le parti agence institutionnelle, mais c'est vrai qu'il y a le mot démocratie, et je pense qu'Emmanuel Macron a raison de tirer la sonnette d'alarme sur le fait que les démocraties peuvent être en danger en Europe et aussi par ailleurs dans le reste du monde, et que l'Europe aujourd'hui doit être beaucoup plus géopolitique, doit beaucoup plus se positionner par rapport au reste du monde, et la France là-dessus a une vraie carte à jouer en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU, en tant que ayant un vrai appétit pour ces questions de relations internationales, et là-dessus on est vraiment dans un monde de brutes où l'Europe c'est dans ce sens-là qu'il cherche à être clairvoyant et à tirer la sonnette d'alarme.
Mais sur la façon dont ce qu'il dit, ce qu'il écrit peut structurer ou pas le débat de ces élections européennes, au moins en France. Est-ce qu'on est vraiment justement dans cette approche-là, ou bien est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose de beaucoup plus consensuel ? Je sais pas, moi je reprends quand même ce triptyque hein, qui apparaît à plusieurs reprises. Liberté, protection, progrès. C'est-à-dire on a l'impression que finalement, quelle que soit sa famille politique, quelle que soit son approche de l'Europe, ce sont des termes derrière lesquels on peut se retrouver, Sébastien Maillard.
On peut mettre beaucoup de...
Personne n'est contre la liberté, ni contre la protection, ni contre le Ah, le progrès à la limite.
Bon, la liberté. On peut mettre après ce qu'on veut derrière. Peut-être que ce qui fera débat, c'est d'une part, il parle d'un salaire minimum européen. On verra comment cette idée est reprise et comment elle peut se traduire, parce qu'on sait qu'il y a ce salaire minimum existe déjà dans beaucoup d'États et comment est-ce qu'on peut fixer une convergence entre la Bulgarie et le Luxembourg pour prendre les deux extrêmes. Et il y a un autre terme aussi qui a peut-être été plus relevé, c'est les préférences européennes. Il parle qu'on pourrait avoir davantage. On avait déjà du traité de Rome, une préférence communautaire. Est-ce qu'on peut avoir une préférence européenne face aux menaces étrangères?
Laurent Bigorgne.
Oui, je voudrais revenir un instant sur l'Allemagne, parce que j'ai à la fois beaucoup de malaise vis-à-vis d'une forme de germanophilie française, et j'ai tout autant de mal avec l'anti-germanisme primaire. Donc j'essaye de me retrouver un peu au milieu. L'Allemagne est pas du tout aujourd'hui en situation ni hégémonique en Europe, ni en situation d'avoir constitué des points forts parce que son modèle serait parfaitement convergent avec le modèle politique de l'Union européenne. Il se trouve que les grands partis de gouvernement allemands n'ont pas connu les fractures des grands partis de gouvernement français sur la question européenne. Et que de ce point de vue-là, elle s'est formidablement organisée et qu'il y a des parlementaires qui, je le redis, ont été mieux choisis et ont, je le maintiens, beaucoup mieux et beaucoup plus travaillé au sein des instances européennes que n'ont fait les Français sur la même période. Aujourd'hui, je pense qu'on a une opportunité, je voudrais saisir là aussi ce que disait Coralie, l'Allemagne est dans une situation, dans une forme d'incertitude, et vis-à-vis de sa place en Europe, parce que la disparition de la Grande-Bretagne de l'Union européenne pose des questions à l'Allemagne sur les check and balance qu'elle a en permanence joué avec notamment la France, mais pas seulement, mais elle est aussi très challengée, ça a été dit sur les États-Unis, moi j'aimerais insister sur la Chine. Aujourd'hui, ce qui provoque une forme de réveil allemand, on a vu dans les déclarations récentes du ministre de l'économie allemand, qui est un Sarrois, qui est assez francophile, mais c'est pas pour ça qu'il a agi de la façon dont il a agi. Il y a une prise de conscience en Allemagne que les choses, que les termes de l'échange avec la Chine sont en train de devenir objectivement très difficiles à tenir. Et il y a un texte du BDI, donc le syndicat des industriels allemands, qui date de 3 semaines environ, et qui explique que le logiciel allemand doit changer. J'ai entendu récemment un des grands économistes allemands me dire, lors d'une intervention que j'avais avec lui à Berlin, il va falloir que quelqu'un explique aux élites et au peuple dans mon pays, que nous avons tous nos avantages comparatifs aujourd'hui sur des secteurs en déclin. Il faut donc que la France continue son travail d'affirmation, de provocation aussi, notamment sur les questions de défense, vis-à-vis des Allemands, pour susciter le débat, mais pour ouvrir aussi un certain nombre de débats. Et c'est pour ça que j'apprécie qu'il y ait un texte qui lance la campagne. Ça n'est pas qu'un coup de com', c'est un texte qui lance la campagne et qui doit aussi permettre que le débat se noue et se cristallise dans d'autres pays que la France,
c'est
notamment l'Allemagne.
C'est peut-être un texte qui s'adresse d'ailleurs en grande partie aux Allemands et à Angela Merkel, Coralie Delhomme.
Oui, c'est un peu étrange la situation de l'Allemagne aujourd'hui, parce qu'effectivement elle est en insécurité sur le plan mondial. C'est vrai que la Chine d'abord ralentit, donc ça fait c'est son principal client. Il y a aussi le problème que la Chine est beaucoup montée en gamme et qu'elle va devenir bientôt un concurrent. Et il y a enfin le fait que la Chine se positionne aujourd'hui en Europe centrale, où l'Allemagne a toute sa base arrière industrielle et les Chinois essayent de placer leurs pions en Europe centrale. Donc tout ça rend les choses difficiles. Donc l'Allemagne, au niveau mondial, est un peu en insécurité. Elle, dans ces conditions-là, elle a presque jamais eu autant besoin de l'Europe, qui lui assure, pour des raisons structurelles, une relative prospérité économique. Et en même temps, elle a de plus en plus de mal avec l'Europe, parce qu'elle est en situation d'être le principal prêteur de pays de la zone euro qui sont de moins en moins solvables, et elle commence à entrevoir le fait que peut-être bientôt, si certains de ces pays font défaut, elle va se retrouver à devoir payer des sommes fabuleuses.
Je reviens à la lettre d'Emmanuel Macron, il nous reste à peine 5 minutes pour en discuter, et au début de cette lettre, dans laquelle il présente les prochaines élections européennes comme décisives pour l'avenir de notre continent, il évoque un danger principal qui est lié au Brexit, qu'on peut comprendre notamment aussi comme le fait que l'Europe pourrait continuer à se déliter si d'autres pays suivaient l'exemple du Royaume-Uni. Sébastien Maillard, sur le côté en tout cas décisif de ces élections européennes, on a l'impression que finalement les problèmes sont ailleurs qu'au Parlement européen et que c'est plus la structure de l'Europe davantage qu'en tout cas que les équilibres ou les déséquilibres qui vont émerger fin mai qui sont le véritable enjeu pour l'avenir de l'Union européenne.
Le Brexit n'a pas eu d'effet domino. Au contraire, ça a plutôt eu un effet contraire. Aucun pays aujourd'hui ne veut sortir de l'Union européenne. Donc, il n'y a pas en ce sens-là des risques d'éclatement.
Ça, d'accord pour le Brexit.
En revanche...
Sur le côté décisif ou pas des élections européennes. C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont vraiment décisives ou bien est-ce que ce n'est pas quelque chose, finalement, qu'on entend à chaque fois? Il me semble, j'ai l'impression qu'en 2014, c'était déjà comme ça qu'on présentait les élections européennes.
Elles sont décisives en le sens où ce ne sera plus un Parlement européen, comme l'a décrit Coralie, qui sera dominé a priori par les sociaux-démocrates et les chrétiens-démocrates. Ce sera un Parlement européen beaucoup plus éclaté et qui sera peut-être plus difficile dans lequel avoir une majorité. Donc l'Europe aura plus de mal à se mettre d'accord. Au pourtant, et dans un monde, il y a une menace chinoise, il y a une relation transatlantique dégradée, un monde extérieur beaucoup plus baroque. Donc effectivement, c'est ça ce qui est décisif pour l'Europe, c'est de savoir si elle est capable ou pas de se reprendre en main face au reste du monde.
C'est ça l'enjeu finalement principal de ces élections européennes, Laurent Bégante, c'est-à-dire de réussir à définir des majorités suffisamment peut-être claires et stables au Parlement européen pour permettre justement à l'Union européenne d'être beaucoup plus, comment dire, cohérente et unie dans les décisions qu'elle devra prendre.
On est dans un monde dangereux. La première fois, un président depuis l'après-guerre, un président américain explique que l'Europe n'est plus son allié. On a une Chine qui pousse, et qui pousse énormément, et Coralie a parfaitement raison de le dire. La Chine va dans le ventre mou de l'Union européenne pour aller casser des coalitions, pour aller casser des politiques, pour aller casser effectivement les institutions européennes ou l'Union européenne elle-même. Et donc il faut maintenant que l'Europe choisisse son destin, c'est-à-dire soit une atomisation d'États qui objectivement ne pèseront rien sur la scène mondiale, ni d'un point de vue politique, ni d'un point de vue commercial, ni économique, soit effectivement des États qui vont décider de peser ensemble.
C'est ça l'alternative pour vous, Coralie Delhomme ?
Je ne pense pas que l'élection européenne soit si décisive que ça, dans le sens où le Parlement européen n'a pas tant de pouvoir que cela. Je pense qu'en 2019, il y aura des choses plus décisives, notamment la composition de la future commission, mais également la relève de...
Qui dépend du Parlement.
Oui, qui en dépend. Et la relève de Mario Draghi à la tête de la Banque Centrale Européenne, et la personne qui va le remplacer déterminera la politique. Soit elle continue à être accommodante, soit elle sera plus restrictive. Et là, ça peut vraiment poser la question, encore une fois, de la survie de la zone euro.
On pourrait avoir d'ailleurs une commission européenne avec des commissaires qui seraient choisis pour leur appartenance à des partis nationalistes parce qu'au Parlement européen, il y aurait ces partis qui auraient suffisamment d'assises, disons, désormais, Sébastien Maillard.
Là, ça ne dépendra pas que du Parlement européen, mais aussi des gouvernements qui ils veulent envoyer comme commissaires à Bruxelles. Alors effectivement, après, ces commissaires candidats sont auditionnés par le Parlement européen qui peut les rejeter, mais c'est pas impossible.
Il y a quand même l'idée que le vote des citoyens européens soit un minimum respecté et qu'on tienne compte des nouveaux équilibres, justement.
Bien sûr, mais je pense qu'il n'y aura pas une majorité europhobe dans ce Parlement européen. Et donc, ce sera une majorité plus éclatée, plus fragmentée. Je doute que les Salvini et autres arrivent à se coaliser pour vraiment peser dans ce choix. En revanche, au Conseil, donc là où les ministres siègent de l'Union européenne, il y aura effectivement des ministres hostiles à l'Union européenne. Ce sera plus difficile de composer avec eux.
Et pour terminer, Sébastien Maillard, vous diriez que le choix qui va se présenter là aux électeurs pour ces européennes, il est entre quoi et quoi? Enfin, il y aurait combien de choix possibles? Les grands choix, les grandes idées, c'est quoi? C'est comme disait tout à l'heure Laurent Bigorgne. On choisit entre soit l'atomisation entre différents des États, soit le choix de travailler de manière plus unie.
Je crois que le choix, c'est pour reprendre la devise de la Belgique, l'union fait la force. Et c'est vraiment peut-être le mot d'ordre qui doit être pour cette campagne européenne dans un monde dangereux, comme on a dit. C'est l'union fait la force, et ça, c'est effectivement le choix de s'unir ou pas.
Est-ce que l'Union européenne fait la force? Eh bien, ce sera par exemple une prochaine question dans le cadre de ce club du grain à moudre, auquel je vous remercie tous les trois d'avoir participé. Sébastien Maillard, donc directeur de l'Institut Jacques Delors, Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne, et Coralie Delhomme, pas encore directrice, mais on va bientôt pouvoir vous lire à nouveau. Rappelez-nous le titre de votre nouvel ouvrage avec David Cayla.
Dix questions plus une sur l'Union européenne.
Et ça sort le
14 mars.
Aux éditions Michalon. Merci à tous. Merci à toute l'équipe du Grain. Antoine Dulster, Camille Fouchard, Antoine Tricot, Léa Capuano et Cyril Marchand. Émission réalisée par Peyre Legras avec à la prise de son Nadège Antonini, Julie Garraud et Pierre Henry.